Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, on grimpe au sommet de l'Everest. Bonjour Nathalie Lamoureux.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver au micro de la curiosité. Vous êtes journaliste, écrivain et vous êtes la 7e française à avoir gravi l'Everest. Est-ce que c'est une folie, ce projet de monter tout là-haut ?
Oui, parce qu'à un moment donné, je dirais, on renverse les normes, on renverse les repères. À 9000 mètres, c'est pas une place pour les humains.
Parce que c'est un lieu très dangereux, l'Everest.
Ah oui, vous avez plus que 20% d'oxygène, donc c'est un petit peu dangereux.
Pas loin de la mort, c'est ça ? 20% d'oxygène.
Pas très loin, mais on peut encore respirer, mais faut pas rester longtemps.
Vous allez nous donner tous vos bons conseils, nous expliquer ce qu'on découvre sur cet Everest.
Une ascension de 8848 mètres, c'est ça ? Ça change à peu près régulièrement ?
À
2 mètres près, c'est ça. Une expérience inoubliable, en tout cas, à vivre dans la curiosité. À haut risque aussi, vous l'avez compris. C'est le nouveau 14h-15h sur RTL.
Restez 14h-15h. Vous écoutez RTL.
Que la montagne est belle.
Voici le sommet de l'Everest où il souffle un vent entre 80 et 120 km/h.
Viens sur la montagne.
Les températures aux alentours de moins 50.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais rassurez-vous, on ne va pas y aller aujourd'hui.
C'est le rêve de tous les alpinistes, gravir le plus haut sommet du monde, près de 8850 mètres d'altitude. Et notre invitée, la journaliste et écrivain Nathalie Lamoureux, l'a fait. Elle nous raconte les secrets de cette montagne incroyable. Alors, avec vous, on va d'abord déplier la carte pour savoir où se trouve précisément l'Everest et puis à quoi ça ressemble.
Alors, du camp de base, côté tibétain, ça ressemble à un gros sphinx. C'est quelque chose de très très massif. Et quand vous êtes tout en haut, eh bien, ça ressemble à Google Earth en live.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est la Terre, j'irais...
En minuscule,
en
quoi ?
En minuscule, en fait. C'est ce que vous voyez quand vous ouvrez Google Earth.
D'accord. Enfin, le sommet, c'est très escarpé, il y a à peine la place pour s'asseoir, on peut tenir
vous
à 5
asseoir.
À 10,
non,
c'est
non,
quoi ?
Non, vous pouvez vous asseoir, il y a quand même de la place pour mettre des drapeaux à prière. Non, il y a même une place pour, de la place pour mettre une table à salle à manger, de faire un banquet. Il y a quand même de la place.
Votre première impression, Nathalie Lamoureux, quand vous étiez en bas de l'Everest et que vous regardez et que vous dites « Ah, je vais grimper ça », qu'est-ce que vous voyez ?
Ah ben je vois déjà un énorme panache qui tourne autour de la montagne, le vent en fait qui va souffler la neige et donc ça fait une sorte de fumée qui s'enroule autour du sommet et c'est vrai que je me dis que jamais j'irai là-haut. Après c'est vrai que quand on au fur et à mesure que l'on grimpe, ben le sommet en fait il disparaît un petit peu donc du coup on n'a plus du tout la même relation avec le sommet.
Mais on vous a entendu là dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta, c'est des conditions extrême, moins 50 degrés. Comment on résiste à ça ?
Moi, je n'ai jamais monté par moins 50, mais je connais des gens effectivement qui sont montés par moins 40. Et là, effectivement, c'est très très froid. Là, c'est vraiment des gros risques de gelure, de doigts coupés, quoi, en fait. Et ça, c'est surtout la face tibétaine, la face nord. Côté népalais, c'est un petit peu plus clément. C'est moins 25, peut-être moins 30. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu des températures qui allaient jusqu'à moins 40. Moins 50, mais moins 50, c'est terrible.
L'Everest, ça fait rêver, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une faucheuse aussi ?
Ah bah bien sûr, il y a des risques, hein, puisque vous êtes au sommet de l'Everest, il n'y a plus que 20% d'oxygène dans l'air.
Mais on dit, pardon, je vous interromps, on dit qu'il y a des cadavres un peu partout, enfin en tout cas qu'il y en a, vous en avez vu ? Vous en avez...
Alors moi c'est vrai que j'en ai enjambé un, mais moi j'en ai jamais vu. Voilà.
Ça veut dire quoi enjamber un cadavre ? Bah,
c'est-à-dire
qu'un
jour, je faisais l'ascension par la face népalaise, parce que j'y suis allée plusieurs fois, donc j'ai essayé par la face tibétaine et là j'ai pas réussi, et donc j'ai changé de face, je suis allée par la face népalaise. Et donc là, vous suivez une corde et puis vous vous tenez avec une poignée jumard qui vous permet d'avancer. Et là, effectivement, il y avait une tache bleue sur la corde et sur le moment, j'ai pas compris ce que c'était. Puis après, j'ai vu que c'était un petit garçon, un petit jeune qui est mort. Il était à court d'oxygène. Il n'avait plus assez. Il y a beaucoup de gens en fait qui partent dans des expéditions, qui grimpent tout seuls, qui n'ont pas forcément assez d'oxygène.
Et personne pour les redescendre ? C'est-à-dire que ces gens vont... Leur cimetière, c'est l'Everest ?
Alors après, c'est vrai qu'il y a des familles qui vont demander à ce qu'on redescende le corps. Donc tout ça, ça implique un coût. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des Sherpas qui redescendent les corps. Alors côté tibétain, c'est beaucoup plus difficile puisque les corps, en fait, restent... étant donné qu'il fait très très froid et que c'est une phase beaucoup plus caillouteuse, les corps, ils vont plutôt... ils vont rester collés, en fait, à la paroi. Et c'est vrai que tous les corps que l'on voit, ce sont surtout ceux du côté tibétain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du côté népalais, puisque côté népalais, il y a des crevasses. Donc les gens, en fait, tombent dans les crevasses. On ne les voit pas, mais ils sont là.
Alors, il y a une autre conséquence du succès de l'Everest, parce que c'est à la fois un exploit, c'est à la fois très difficile, et puis il y a quand même beaucoup de monde qui tente cet exploit, sont les déchets. Il y a une association en juin dernier, Montagne et Partage, qui est revenue avec plus de 5 tonnes de déchets de l'Everest. Moi, j'ai eu du mal à croire ce chiffre. C'est une poubelle, l'Everest, aussi?
Bah, il y a des déchets, mais par exemple, si vous prenez l'exemple de la mer de glace, depuis 2008, on a sorti 18 tonnes de déchets. Donc la mer de glace, c'est le plus grand glacier de France. Et il y a 500 000 personnes qui la visitent chaque année. Ouais. Et nous sommes quand même dans un pays développé, et 18 tonnes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur l'Everest. C'est que 1000 personnes par an. Hein. Donc je pense qu'il y a aussi une...
Oui, mais ça veut dire que les cordées, les alpinistes ne s'occupent pas forcément de leurs propres déchets, ou alors que c'est trop compliqué de les transporter?
Non, il y a quand même des choses qui ont changé.
D'accord.
On est obligé de redescendre les bouteilles d'oxygène.
Et le caca, les excréments? Non, mais on fait comment sur l'Everest quand on... Il y a des toilettes régulièrement?
Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui montent des toilettes, effectivement. Ouais. Sinon, on fait dans les sacs poubelles. Hein.
Ouais. On les ferme, on les met dans son sac à dos.
Non, on n'est pas encore là. Puis alors c'est vrai que quand on va monter l'Everest à partir de 6400 mètres, on a plutôt tendance à tout garder à l'intérieur et à ne pas aller aux toilettes. Mais ceux qui effectivement sont obligés d'aller faire caca, c'est beaucoup de personnes qui ont à un moment donné, ils sont pas allés depuis très longtemps et puis ça se lâche et donc ils ont pas le choix.
Il faut bien.
Il faut bien quoi.
Nous sommes des
fois
humains.
C'est dans le pantalon, hein, donc c'est pas top. Hein.
Ouais, non, c'est pas top, c'est pas confortable. Saviez-vous qu'une expédition sur l'Everest coûte entre 20 000 et 80 000 euros? Le business autour de l'Everest est à découvrir dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
C'est vrai que l'Everest a déjà été fait, je ne dis pas que c'est une performance, mais je dis que les Français n'y avaient jamais été. C'est une motivation suffisante pour qu'ils y aillent. Après tout, il y a bien des gens qui veulent aller au Mont Blanc et qui se font plaisir, et le Mont Blanc a déjà été fait peut-être, je ne sais pas, moi, 300 000 fois. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à l'Everest?
Une archive RTL pour lancer cette séquence de la curiosité. C'était la voix de Pierre Mazeaud, le premier Français au sommet de l'Everest en 1978. Et nous, on a la 7e Française à avoir réalisé cet exploit, Nathalie Lamoureux, journaliste et écrivain. Quels sont les alpinistes, les aventuriers qui vous ont fait rêver, qui vous ont donné finalement envie de ce dépassement de soi?
Celui qui m'a donné envie, qui m'a emmené, c'est l'alpiniste Marc Battard, qui détient toujours le record de vitesse d'ascension de l'Everest sans oxygène. Et c'est vrai que lui, c'est une histoire assez incroyable. C'est l'alpine des années 80. Et là, il s'entraîne encore pour remonter à 70 ans sans oxygène.
C'est quoi le record, en fait, le record de montée sans oxygène?
Alors, il y a plusieurs records. C'est-à-dire que tout récemment, on a eu le Kilian Jornet qui a gravi l'Everest sans oxygène. Alors, c'est vrai, c'est une performance...
Deux fois en une semaine?
Oui, deux fois. C'est ce qui est... Je pense qu'il devait pas être très content du premier temps qu'il avait fait. Donc, il a recommencé. Alors lui, effectivement, il a établi un temps, c'est-à-dire que lui, il est parti du camp de base près de monastère de Rumbuk, et il est allé jusqu'au sommet, mais il ne bat aucun record, puisque personne n'était parti, je dirais, de ce monastère. Et comme les records, en fait, ne sont pas comparables, on ne peut pas dire qu'il a établi ou il a battu un record. Simplement, c'est une belle performance. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 166 ou 170 himalayistes qui l'ont fait sans oxygène. Et techniquement, du point de vue, je dirais, de l'alpinisme, en fait, il ne va pas révolutionner la technique. C'est-à-dire qu'il utilise une voie normale, il passe par une voie normale, il ne va pas passer par une voie difficile.
Qu'est-ce qui est particulièrement dangereux? Ce sont les derniers 100 mètres, les derniers 500 mètres? C'est le moment où l'oxygène est le plus rare?
Plus on se rapproche du sommet, moins il y a d'oxygène. Donc forcément, ouais. À un moment donné, là...
La fatigue s'accumule.
Vous risquez de griller des neurones. Vous pouvez avoir un œdème pulmonaire, un œdème cérébral. Alors l'œdème cérébral, c'est vrai que c'est terrible parce qu'on ne se rend pas forcément compte tout de suite. On délire un petit peu et puis on a des propos totalement incohérents. On peut s'asseoir et puis s'endormir et mourir.
Alors, vous racontez cette histoire, l'Everest à la folie, publiée aux éditions Guérin, Nathalie Lamoureux. Et vous racontez une histoire incroyable avec votre Sherpa. Il s'appelle Passang. Qu'est-ce qui vous est arrivé presque au sommet de l'Everest avec lui?
Alors lui, Passang...
Pourquoi vous rigolez?
C'est un souvenir romantique,
mais
drôle.
Oui, c'est plutôt un souvenir romantique, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on était pris dans la tempête, on s'est réfugié dans une tente, et je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai embrassé.
Super.
voilà.
Qui vous plaisait.
Ouais, il me plaisait, je le trouvais très beau.
C'est bien.
Donc c'est vrai qu'il était un petit peu surpris. Et bon, le problème, c'est que comme je tentais sans oxygène, ben, le lendemain, je me souvenais plus de rien.
C'est vrai, c'est lui qui vous l'a rappelé. C'est lui qui vous a dit.
C'est lui qui me l'a rappelé.
C'est la blague, j'ai rien senti, quoi. Non, c'est là, c'est je me souviens de rien, c'est ça.
Ça fait partie du mal des montagnes, ça, la perte de la mémoire.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Sur l'Everest.
Ah non, mais c'est pour ça que en montagne, notamment en très haute altitude, vous avez l'impression en fait que le cerveau il tourne à 100 à l'heure, mais vous oubliez en fait plein de choses. On a vraiment des pertes de mémoire. Hein.
Oui. C'est quoi un Sherpa? Il faut le rappeler.
Alors un Sherpa, c'est une ethnie, ça veut dire peuple de l'Est. Ce sont des populations de culture tibéto-birmane qui peuplent les franges himalayennes du Népal. Qui autrefois habitaient au Tibet. On les confond un petit peu avec guide, c'est-à-dire qu'on on a confondu l'ethnie avec la fonction qui est le portage ou alors le guide. Donc, à but de langage, on parle de Sherpa, mais parmi les guides, vous avez aussi des Tamangs, des Rails et d'autres ethnies.
Ils coûtent cher parce qu'ils ont un savoir-faire. Et on parlait de 20, ce que disait Sidonie tout à l'heure, 20 à 80 000 euros pour une expédition, donc c'est une partie importante du budget.
Bah déjà, le permis coûte 10-15 000 euros.
Le permis de grimper l'Everest.
Ouais. Donc c'est déjà un coût. Après, l'expédition en elle-même, c'est pas ce qui coûte le plus cher, du moins du côté népalais, puisque vous avez à payer quoi, la tente, la vaisselle, la nourriture, les cuistots. Le Sherpa, il est payé par son agence, mais après, s'il réussit le sommet, il va avoir un bonus.
Ah, il y a une prime.
Oui, il y a une prime. Il y a une prime au sommet.
Et donc on le paye combien?
Quand j'y suis allée il y a 3 ans, elle devait être dans les 1500, je crois que maintenant ça a augmenté, ça doit être dans les 2000.
Pourquoi il y a un permis finalement pour grimper l'Everest? Ça se justifie comment? Quel service on vous apporte en échange de ce 10 000
euros? Déjà, c'est des rentrées d'argent pour le gouvernement.
Ouais.
C'est un droit d'accès, comme on peut le trouver en la Concagua, par exemple. C'est d'ailleurs aussi avec l'argent du permis que on va nettoyer le parc, parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites hein, pour
l'entretien des vaches,
pour l'entretien du parc. Hein.
Nathalie Amoury, je vous écoute depuis tout à l'heure avec attention et passion, et puis vous me bluffez aussi parce que je me dis mais physiquement vous êtes pas très grande, vous n'êtes pas une montagne de muscles. Je me dis, mais comment elle a réussi à grimper l'Everest? Bah, c'est ce que vous allez nous raconter dans une minute sur RTL.
Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Découverte, partage, humour, bel après-midi sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Du sommet, on y voit la courbure de la Terre. La Terre en minuscule, on découvre l'envers du décor. Et quel décor, l'ascension de l'Everest à travers les yeux et l'expérience, l'exploit même de Nathalie Lamoureux, 7e française à avoir marché sur le toit du monde. Vous l'avez grimpé, je crois, 3 fois avant de parvenir à le conquérir, cet Everest. Pourquoi c'est si difficile de le gravir, finalement ?
Déjà, j'avais commencé par la face tibétaine, qui est une face nord, donc très froide. J'ai eu beaucoup de vent.
Qu'est-ce qui fait que vous renoncez ? À quel endroit vous renoncez et pourquoi ? Parce que ça devient trop dangereux ?
Ouais, ça devient trop dangereux, le vent commence à arracher les tentes et puis vous êtes quand même sur des pentes assez raides et quand vous avez des fois des tentes qui s'envolent. Hein. Moi, j'ai vu une tente, mais qui s'est complètement envolée avec les bouteilles d'oxygène à l'intérieur et qui volait dans le ciel.
Donc là, c'est le Sherpa qui vous dit il faut redescendre ou c'est vous, c'est votre instinct d'alpiniste?
Non, moi j'ai pas la prétention d'être alpiniste, mais je pense que c'était plus d'un commun accord. On a des fenêtres météo. Donc généralement le sommet il se fait entre le 18 et le 25 mai. Du coup c'est quand même sur une semaine, c'est assez court. Hein, et une fois en fait que l'on est monté jusqu'au 7008, si par exemple on rate la première tentative, après c'est mort. Hein.
Pour arriver au sommet, il faut y arriver avant une certaine heure, partir au milieu de la nuit, comment se passe?
Il vaut mieux partir de très bonne heure. Généralement on part la nuit vers minuit. Et puis on arrive au lever du soleil, parce qu'après 13 heures, vous avez plein de vent qui s'excite sur le sommet, puisque le soleil va réchauffer le sommet, et tout ça, ça va créer plein de courants au niveau du sommet. Et donc, du coup, c'est des vents, ce qu'on appelle les vents catabatiques.
Mais vous voyez quoi la nuit, Nathalie Lamoureux, l'Everest, la nuit?
Ah, mais on voit rien.
C'est angoissant. Ah, vous voyez rien?
Ah, ben non, non.
Elle dit ça en rigolo.
Mais moi, quand je suis arrivée au
sommet. Vous tâtonnez, vous tenez la main de votre sherpa, ça
se passe
comment?
Moi, j'ai mes pieds, moi.
C'est vrai?
Ouais. Mais même, en plus, quand je suis arrivée au sommet, il y avait plein de brouillard. Mais c'était pas grave, il y avait que nous au sommet, c'était magnifique, on aurait pu se marier au sommet, jeter du riz, c'était...
Vous dites que vous n'êtes pas alpiniste, Nathalie Lamoureux, et bon, votre expérience montre un petit peu quand même le contraire, vous êtes journaliste, écrivain, comment vous vous êtes entraînée pour monter cet Everest? Est-ce que c'est l'entraînement d'une année? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, j'ai fait une école de glace, j'ai fait des courses d'alpinisme dans les Alpes.
Attendez, une école de glace?
Une école de glace, c'est-à-dire c'est un stage que vous faites avec un guide qui va vous apprendre à cramponner, à utiliser un piolet, à vous assurer, à marcher avec des crampons.
Dans le noir?
Oui, dans le noir. Puis après, je suis allée me tenter aussi un 7000 en Argentine, c'est ce que font la plupart des gens qui vont faire l'Everest, ils vont stater un petit peu en Argentine sur la Aconcagua. Sommet de l'Amérique du Sud. Et puis je me suis entraînée à la Tour Eiffel aussi.
Comment ça?
Pardon, à la Tour Eiffel.
À la Tour Eiffel, oui. Alors, ce qui est bien à la Tour Eiffel, c'est que c'est très pentu. Ça permet de travailler le cardio et de faire des entraînements en fractionné.
Vous montiez les escaliers, quoi.
Voilà.
À toute vitesse.
Oui. Non, je faisais pas d'échafaudage sur la Tour Eiffel. Ah ouais, non, c'était
peur,
les escaliers.
Et la gestion de l'oxygène, comment vous l'avez. Vous vous êtes entraînée pour, je sais pas, garder votre oxygène le plus possible, maîtriser?
Alors, Non, ça
ça prend pas.
Si, c'est-à-dire vous pouvez en fait avoir une réserve ce qu'on appelle de VO2 max, de capacité respiratoire. L'idée c'est vraiment de muscler son cœur. Donc pour que au moment fatidique, vous souffriez moins que si vous n'aviez pas fait d'entraînement.
Nathalie Amoureux, vous racontez cette histoire dans ce livre L'Everest à la folie, publié aux éditions Guérin. Est-ce qu'il y a un régime particulier à faire?
Faut pas être trop fin. Vaut mieux plutôt avoir une réserve musculaire. Surtout pas faire de gonflettes.
Mais vous avez perdu du poids pendant cette ascension?
Moi, mon problème, c'est que j'avais pris un peu trop de poids et j'en ai perdu beaucoup moins que ce que j'espérais. Par contre, les hommes perdent beaucoup, mais les femmes perdent un peu moins.
Qu'est-ce qu'on mange sur l'Everest pendant tout ce chemin qui dure plusieurs heures et plusieurs jours?
Au moment de l'ascension finale, c'est-à-dire quand on quitte le camp de base, on mange plus que des soupes. Et puis on peut rester peut-être 3 jours sans manger.
Vous aviez du tang chaud aussi, j'ai cru dire ça dans votre livre. Qu'est-ce que c'est cette horreur?
C'est quoi ça?
Et à quoi ça sert?
Le tang, ça existe toujours. Hein. Nous, c'était la boisson.
Ah, le tang?
Oui, le tang.
La poudre à l'orange.
Déjà, froid, c'était pas bon, mais alors chaud.
Mais chaud, c'est super bon, ça requinque. Hein. Moi, j'aurais jamais imaginé en boire chez nous, mais là-bas, ça avait un autre goût.
C'est le secret des alpinistes?
Non, je dirais pas que c'est parce que c'est plein de produits chimiques. Je ne vais pas faire la promotion de cette boisson.
Quel est votre souvenir le plus dingue de ces derniers moments-là? Parce que c'est vrai que c'est l'Everest, d'ailleurs c'est une expression, hein, ce sont les derniers moments, le haut du sommet. Qu'est-ce que vous gardez quand vous endormez le soir et que vous repensez à votre exploit?
Moi, c'est ce moment où j'ai quand même l'esprit qui se sépare du corps. Et on est comme dans un film au ralenti. Et puis je me vois en fait dans le ciel. Mais mon corps, il reste au même endroit, il avance pas. Donc c'est des moments assez déstabilisants, pas désagréables, hein, puisque vous pourriez en fait rester là et puis ne plus avancer. Après, il faut sortir justement de cet état.
Il faut se rassembler.
Ouais, plutôt, oui.
Merci.
Il faut tout regrouper en un. Merci.
Nathalie Lamoureux, c'était fantastique de vous avoir dans La Curiosité, l'Everest à la folie, publié aux éditions Guérin pour revivre votre aventure dans le détail.
Vous écoutez RTL.